France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie de l'écrivaine Fatou Diom ce soir. Elle publie chez Albin Michel Les Veilleurs de Sangomar, un roman sur l'absence quand l'être aimé a été arraché à la vie. Dans le cas présent, les disparus ont sombré avec le Djola, ce bateau qui a fait naufrage au large du Sénégal en 2002. L'absence de l'être aimé, un thème universel que l'on n'aborde pas forcément de la même façon selon l'endroit d'où l'on vient, selon les croyances qui vous accompagnent. On en parlera évidemment avec elle et on reviendra aussi sur son parcours si particulier. Avant cela, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, a commencé par la disparition de Jacques Chirac, que Fatou Diom avait eu l'occasion d'accompagner lors d'un voyage en Afrique. Elle nous racontera la passion de ce président pour le continent africain. Nous entendrons également l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon. Vous l'avez compris, ce soir, cette émission, réalisée par Marion Lelay et préparée par Hugo Combe, sera légèrement différente de ce qu'elle est d'habitude, compte tenu des circonstances. À 19h20, au téléphone sonne, question sur la scolarisation des enfants en situation de handicap a-t-elle progressé ou pas cette année? On tentera un premier bilan un mois après la rentrée. Pour cela, on compte sur vous et sur vos appels au 01 45 24 7000. Le standard est déjà ouvert. Appelez-nous.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Fatou Diom.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
Un grand merci d'être avec nous jusqu'à 19h pour évoquer votre dernier roman, mais également votre parcours et l'actualité de la semaine. Alors si vous le permettez, on va peut-être commencer par là, par la disparition de Jacques Chirac. Il se trouve, je le disais, que vous avez eu l'occasion de l'accompagner lors d'un voyage en Afrique. C'était, je crois, après la publication de votre livre, Le Ventre de l'Atlantique, un livre bouleversant, je le dis en passant. Racontez-nous dans quelles circonstances et comment vous êtes partie avec Jacques Chirac. Et où êtes-vous allé très précisément, Fatou Diom?
Alors, d'abord, comme tous les Français, je m'incline devant la mémoire du président Chirac, qui a présidé à notre destinée collective pendant une dizaine d'années. Et c'était une présence, un sourire, une allure, la French touch, comme on dit. Donc, on ne peut pas oublier son regard, sa présence. Donc, avoir l'occasion de le rencontrer, je ne le croyais pas possible. Et un jour, on m'a contacté pour l'accompagner en voyage officiel au Sénégal. Et il m'a fait voyager avec lui dans l'avion. Il m'a fait venir et il me faisait des citations où, heureusement que je suis noire parce que j'aurais été comme une pivoine, puisqu'il me sortait des citations graveleuses dans Le Ventre de l'Atlantique.
Ah bon?
Où je disais que je pouvais faire une tête de veau au beurre de cacahuète pour requinquer un président et lui éviter les critiques de son ambitieux premier ministre. Et c'était la première citation qui m'a sortie. Et j'ai eu tout de suite peur et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai osé faire? Et il est parti d'un éclat de rire. Et il m'a dit, j'aime bien les plumes roboratives. Et donc, c'était parti. Le contact, c'était ça. Et pendant les quelques jours qu'on a passé à Dakar, je pense que les journalistes qui étaient avec nous pourraient encore en témoigner. C'était un monsieur qui tout de suite faisait des compliments à toutes les dames qui étaient là. Donc, devant lui, on se sentait
donc
magnifique.
En Afrique aussi. Hein.
Et mais tout ouais, à fait. Il a eu un accueil. Le peuple sénégalais, on lui a fait des haies d'honneur partout. Donc, les gens ne disaient même pas président Chirac, ils disaient Chirac partout. Parce que c'est quelqu'un qui est habitué au Sénégal, que les Sénégalais étaient habitués à sa présence. C'est quelqu'un qui n'allait pas seulement pendant des voyages officiels, mais qui avait une vraie connaissance profonde de l'Afrique. J'ai vraiment pu me rendre compte quand il a commencé à me parler de mon peuple, de ses guéloirs, du Saloum. J'étais étonnée parce que, mais je ne m'attendais pas, c'était le premier à me parler de ce peuple du Sine Saloum depuis que je vivais en France. Donc voilà,
c'était quelqu'un qui aimait vraiment l'Afrique. Quoi.
Il connaissait l'Afrique, il aimait l'Afrique. D'ailleurs, juste pour vous dire, en quittant Dakar, il se rendait d'abord à Dakar. Il y avait ce Dakar agricole voulu par le président Ouad qui voulait justement estomper ce grand décalage entre les pays riches et les pays du Sud par rapport à l'agriculture. Et donc, il s'est investi de ça, il parlait de ça, on l'entendait, c'était comme un fermier. Quand il parlait de ça, il avait cette passion qui contaminait tout le monde. Et en partant de Dakar, il se rendait à Brazzaville pour un sommet sur la gestion des forêts de l'Afrique centrale. Donc récemment, il y a la
forêt. Là, vous l'avez pas accompagné à Brazzaville.
Non, là, je ne suis pas allée à Brazzaville parce que je rentrais pour des conférences. Mais il parlait de cette écologie-là, de la nécessité de préserver les forêts africaines. Donc moi, j'ai rencontré un homme passionné par le dialogue des cultures. Donc il me parlait de poèmes de Senghor. Il me parlait de cette culture africaine. Il me parlait de l'art africain. Donc sa connaissance de l'art africain, pour moi, c'était une leçon, une découverte. Et surtout, je me souviens de la chaleur d'un homme, de la présence d'un homme. Et puis, autre chose que je ne peux pas oublier. J'ai un autographe chez moi. C'est la lettre où le président de la République française me souhaite la bienvenue dans ce pays magnifique, dans la nationalité française. Eh bien, j'ai l'honneur d'avoir cette lettre signée par le président Chirac.
Parce que vous avez été naturalisé sous Jacques Chirac, c'est
exactement.
Ça.
Donc, président, ma première année en France, ma deuxième année, il était élu président et c'est lui qui a signé ma naturalisation.
Alors, Jacques Chirac, vous nous le dites, Fatou Diome était comme un poisson dans l'eau en Afrique. On va écouter la confirmation avec notre confrère Omar Ouaman qui nous rafraîchit plus globalement la mémoire.
En Afrique, Jacques Chirac s'est toujours senti chez lui. En 12 ans de présidence, il s'est rendu dans 39 pays du continent où il recevait à chaque fois un accueil chaleureux.
Vous le savez, j'aime et je respecte l'Afrique.
Un amour de l'Afrique qui s'est traduit par de nombreux combats contre le paludisme ou le sida, des discours qui résonnent encore dans la mémoire des Africains comme cet avertissement lancé au Mali en 2005.
Rien ne serait plus dangereux que de laisser les jeunes Africains sur le bord de la route. L'Afrique serait en grand péril et le monde en danger certain de déséquilibre.
Des années marquées par des amitiés controversées avec des présidents autoritaires, le Gabonais Omar Bongo ou encore le Camerounais Paul Biya. Pour Jacques Chirac, le développement économique en Afrique passait avant les grands principes démocratiques.
La France entend soutenir son aide au développement, continuer d'appeler la communauté internationale à s'y engager.
Mais cette politique africaine de l'ancien président français a été ternie par le retour de Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle. Jacques Chirac avait fait de ce personnage sulfureux son conseiller à l'Élysée.
Omar Ouaman, Fatou Diome, vous venez d'un pays où la démocratie existe, il y a des élections libres maintenant au Sénégal, c'est pas le cas, hein, loin de là, hein, sur le continent africain. La France-Afrique, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est toujours une forme de colonialisme quelque part, en tout cas économique?
Alors, moi, je laisserai l'analyse politique aux politologues, mais la romancière que je suis, vous savez, je suis sensible à la présence humaine de cet être-là qui vient de nous quitter. D'autre part, je pense
parle plus généralement, au-delà même de Jacques Chirac, de ce rapport la France-Afrique, de dépendance économique qui existe encore.
Je pense que l'Afrique, comme disait le président Chirac, l'Afrique et la France seront toujours liées. Il s'agit d'améliorer ce partenariat. Donc moi-même, je ne suis pas avare de critiques, vous le savez. Je traite le partenariat Afrique-Europe de contrat léonin. Je le répète souvent. Donc il y a des choses qui se passent bien, mais nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour améliorer. S'il est vrai, comme le disait le président Chirac, que le destin de l'Afrique ne se fera pas sans la France, il est exactement clair aussi que le destin de la France ne se fera pas sans l'Afrique. Et bien, si nous sommes autant liés, il est temps de penser à la justice, à plus d'égalité dans nos partages, notre balance commerciale entre les deux pays.
Exploiter les matières premières.
Exactement, il faut payer un plus juste prix pour répondre vraiment à cette volonté de justice dont il parlait. Et si nous voulons poursuivre ce dialogue des peuples, et bien c'est possible quand il y a un respect mutuel. Si les gens ont le sentiment d'être exploités, il ne sera pas possible de cultiver la paix. Et alors, la paix passera par la justice. Il faut de l'éthique dans le commerce.
Alors, on va en revenir à la question culturelle. Fatou Diome, effectivement, Jacques Chirac aimait l'Afrique, les Africains, les arts d'Afrique, mais également ceux des autres continents. Il avait un rapport très particulier à la culture. Écoutez ce qu'en dit Jean-Jacques Ayagon, qui fut ministre de la Culture à l'époque où il était à l'Élysée.
Le rapport de Jacques Chirac avec la culture était un rapport paradoxal, parce que cet homme très pudique a pendant longtemps tenté d'accréditer la théorie qu'il n'était pas cultivé ou qu'il ne s'intéressait, comme il le disait lui-même, qu'à la musique militaire ou à l'accordéon corrézien. Ce n'est que tout doucement que s'est révélée la part la plus profonde de sa personnalité, c'est-à-dire cet enracinement de sa culture dans les cultures lointaines, dans les cultures de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique précolombienne, de l'Océanie. Devenu président de la République, Jacques Chirac s'est dit que c'était le moment, finalement, de donner à cette conviction, à cette passion, une expression publique, parce qu'en effet, il était convaincu que la promotion de la diversité des cultures et que la promotion du dialogue entre les cultures était une sorte d'obligation politique pour notre temps, que le monde de demain se fracturerait si les hommes n'étaient pas capables de se considérer, de se respecter mutuellement et de se connaître. Donc, dès son élection à la présidence de la République, il a pris cette grande décision, d'une part, d'introduire les arts qu'on appelle parfois primitifs, qu'on appelait à un moment les arts premiers, au musée du Louvre, C'était pour lui une façon d'affirmer que les arts de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique précolombienne avaient autant de dignité que les arts de nos civilisations. Et ensuite, il lance ce grand projet d'un musée des civilisations qui deviendra le musée du Quai Branly, qui porte désormais son nom.
Est-il vrai que parfois, il allait visiter la nuit le musée du Quai Branly? Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Écoutez, il y allait de jour, en tout cas, je ne sais pas s'il y allait la nuit, mais ce que je sais, c'est que partout où il allait dans le monde, à l'occasion de ses déplacements officiels, il tenait beaucoup également à ce qu'il y ait un moment de liberté qui lui permettrait d'aller dans un musée. Jacques Chirac avait beaucoup de respect pour les gens qui étaient détenteurs d'un savoir, d'une connaissance. Il les respectait, les appelait souvent maîtres, d'ailleurs, par une forme de révérence, par une forme de respect extrême. Il s'intéressait à leurs travaux, il demandait souvent à ces personnalités de lui faire part de leurs réflexions, de leurs travaux les plus récents. Le professeur Coppens, à plusieurs reprises dans le bureau de Jacques Chirac, lui présentant là aussi par exemple le crâne de Lucie qui venait de découvrir. Jacques Chirac s'intéressait à tout ce qui concerne le destin de l'humanité, le destin de l'homme, la paléontologie, l'archéologie, l'histoire des civilisations.
Voilà, il était un petit peu africain, Jacques Chirac. Comme Yves Coppens, qui aurait rêvé d'être africain, d'ailleurs, Fatou Diome.
Tout à fait. Monsieur Coppens, un grand pédagogue aussi.
Vous l'avez visité, évidemment, ce musée
J'ai visité,
du Quai Branly.
Ah oui, j'ai visité. Mais, vous savez, le savoir mondial, pour moi, c'est il y a un grenier pour l'humanité. Donc, lui, il concourait à la sauvegarde de tout cela. Et toujours dans cette idée de dialogue des cultures, vous vous souvenez quand même du festival Francophonie en France. C'était son idée. Il m'en a parlé à l'époque pendant son voyage officiel pour inviter les gens parce qu'il voulait qu'on discute de la francophonie. Il me disait, pourquoi les Français sont si peu intéressés par la francophonie? Et je lui ai dit, c'est simple. Ils pensent que la francophonie, c'est la périphérie de la France. Donc, il faudrait faire un festival ou des activités où ils se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes à l'intérieur parce que, ben, linguistiquement, ils font partie de la francophonie. Donc, c'est pas la francophonie, c'est pas que les Africains. Et ça le faisait rire. Et puis, il trouvait que les Africains, leur connaissance de la culture occidentale faisait qu'on était beaucoup plus proche qu'on ne l'imaginait. Et je pourrais dire tellement de choses. Et là, je vais vous dire, c'est pas parce que il vient de partir aujourd'hui. Le discours que je tiens là, je l'ai déjà tenu ailleurs. Parce que les gens vont parler de lui. Ils vont parler de l'homme politique. C'est pas mon rôle. Moi, je suis romancière. J'ai rencontré un monsieur. Et puis, c'est un grand monsieur. Et puis, voilà, Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Il avait l'allure pour des rôles magnifiques.
Eh ben, voilà, c'est dit. On va passer, Fatou Diome, à l'actualité de la semaine. Comme tous les vendredis, l'actualité mise en onde par Céline. Il a une actualité qui résonne comme un écho à ce discours prononcé le 2 septembre 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud, par Jacques Chirac notamment.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Eh bien justement, les générations futures, elles passent à l'action aujourd'hui.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je fais partie des chanceux. Les gens souffrent. Les gens meurent. Comment osez-vous?
Une adolescente de 16 ans devant l'ONU à New York pour rappeler l'urgence climatique. Mais Greta Thunberg en agace plus d'un, surtout quand elle accuse un certain nombre de pays d'inaction. Dans le rôle de l'arroseur arrosé, Emmanuel Macron.
Des actes, des actes, des actes.
Tu parles, bla,
on ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester et simplement dire on fait tout bien.
L'eurodéputé vert Yannick Jadot n'aurait pas dit mieux.
Que M. Macron fasse son boulot, qu'il arrête de faire des discours, qu'il agit.
Tu parles, tu meurs, tu parles plus.
Au demeure des travailleurs.
Manifestation pour le climat samedi dernier un petit peu partout dans le monde et notamment à Paris où il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre une fois de plus.
Les tirs tendus sont interdits.
La préfecture a repoussé le Black Bloc vers le cortège.
Ils nous gazent, c'est eux qui foutent le bordel.
Il devient difficile de manifester.
Anne Hidalgo,
samedi, la maire de Paris. Beaucoup de parents avec des enfants sont partis, comme moi d'ailleurs, dès qu'on a commencé à sentir les premiers gaz lacrymogènes.
Détention comme à chaque fois que sortent les gilets jaunes et que les Black Blocs s'invitent dans les cortèges.
Je suis Black Bloc, pour mes gamins, je pèterai tout, d'accord ? Ce qui représente le capital, je m'en bats les couilles. Moi, j'aime battre, quitte à perdre une main, un bras, un œil, pacifiquement, on n'a jamais rien gagné.
C'est la pire idée de cramer une poubelle pour lancer la marche pour le climat, sachant que c'est justement censé aider une poubelle, le climat, donc les gens qui font ça, je ne les comprends pas vraiment.
Il nous manque le courage, beaucoup, souvent.
Et pendant qu'Emmanuel Macron appelait la communauté internationale à faire preuve de courage devant l'ONU, à Paris, Édouard Philippe, lui, allait à Canossa.
J'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure.
Obligé de reculer sur des mesures fiscales qui auraient pénalisé les plus âgés.
Ces mesures n'entreront pas en vigueur.
Du courage de tenir ses promesses de campagne. Le même jour à l'Assemblée, ouverture du débat sur le droit à la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes. L'occasion pour quelques députés de faire de la résistance, notamment à la droite de la droite, Emmanuel Ménard.
Comment, pour satisfaire un désir d'enfant, osez-vous prendre la décision d'inscrire dans le marbre de la loi la privation d'un père pour des enfants ?
Au quotidien, tout le monde s'en fout, en vérité. Enfin, de temps en temps, il y a évidemment un abruti qui va dire quelque chose. Les gens se rendent compte que nos enfants sont comme les autres.
Les familles monoparentales et homoparentales existent déjà. Et il serait aussi hypocrite de ne pas le voir que de persister à ne pas les reconnaître.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera peut-être obligée de manger son chapeau sur un autre dossier la semaine prochaine. Emmanuel Macron veut en effet débattre de l'immigration et il songe à revoir à la baisse l'AME.
Mais est-ce que l'aide médicale d'État a un panier de soins, comme on dit, qui correspond à tout ce qui est nécessaire ? La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien.
Vous entendez ce bruit ? C'est celui de la pluie qui tombe. Enfin, elle est de retour avec l'automne après des semaines de sécheresse. Rien que du bonheur pour cet habitant de la Creuse.
Que cette eau soit bénie. Non, c'est une bonne nouvelle, oui. Mais il faudrait qu'il en tombe beaucoup plus et pendant des jours.
Et un très grand merci à Céline Hila. Une semaine en France, toujours en compagnie de Fatou Diome. Est-ce que vous avez envie de réagir à un de ces sujets qu'on vient d'entendre, Fatou Diome ? Est-ce que quelque chose qui retient votre attention ?
La jeune Greta qui s'énerve. Donc voilà, elle est aussi en âge d'étudier. Nous partageons cette urgence de lutter, cet intérêt pour la planète, cette volonté de lutter pour la planète. Et moi, je voudrais aussi qu'on la protège. Elle fait aussi partie de la nature à protéger parce que les êtres humains sont une part de cette nature. Donc voilà, pour défendre la planète, il ne faudrait pas la sacrifier, elle.
La question de l'immigration, à nouveau sur la table, mise sur la table pour un débat par Emmanuel Macron. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais un petit peu plus tard.
La question de l'immigration, alors...
Il a raison de demander qu'on en débatte encore une fois ?
Je ne sais pas si on doit encore en débattre, mais quand le président Macron il dit qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, ça me fait penser à la célèbre phrase de Monsieur Rocard. Oui, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il complétait en disant, mais elle doit prendre sa part. Donc, eh bien, moi, je compte sur la France pour respecter son idéal de fraternité, pour respecter, les droits de l'homme. Pour vraiment protéger ces gens-là qui viennent. S'ils viennent en France, c'est parce qu'ils respectent ce pays, c'est parce qu'ils comptent sur ce pays. C'est donc qu'ils viennent chercher secours. Et je voudrais qu'on les traite le plus humainement possible. Voilà, ça c'est une demande que je fais. Et je ne suis pas bisounours, mais je pense qu'on peut encore faire beaucoup, beaucoup mieux pour protéger les gens qui souffrent et qui comptent sur nous.
Fatou Diome, vous venez de publier Les Veilleurs de Sangomar, votre dernier roman, chez Albin Michel. Il se trouve que nous sommes le 27 septembre. Elle vous dit quelque chose, cette date ?
Oui, donc hier, c'était l'anniversaire triste anniversaire du naufrage du Djola.
Qui est donc au cœur de ce roman ?
Les Veilleurs de Sangomar.
Parce que c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari dans ce naufrage. C'était donc en 2002. Mm-hmm. Terrible naufrage qui a fait environ
2000 morts.
On ne sait pas très bien. Le bateau a sombré. Il était prévu pour quoi ? Pour 500 personnes. Mm-hmm. C'est un drame qui a touché beaucoup de monde au Sénégal.
Tout le Sénégal est concerné parce que, quand vous savez la structure de nos familles en Afrique, nous sommes tellement tous liés d'une région à l'autre. Les gens étaient tous touchés de près ou de loin. Quand on ne connaît pas des personnes directement, on a des proches qui ont des proches ou des amis qui ont été touchés. On connaît tous tout le Sénégal. À chaque personne, chaque personne qui en discute vous dira qu'elle connaît directement ou indirectement des victimes du Djola.
Kumba, cette femme qui est au cœur de votre roman, elle existe vraiment ou c'est quelqu'un que vous avez imaginé par rapport à tout ce que vous avez entendu?
J'ai imaginé le personnage, mais j'ai imaginé le personnage en étant nourrie de l'ambiance globale. C'est-à-dire que j'ai vu des veuves, j'ai vu des orphelins, des orphelines, j'ai vu des parents qui ont perdu leurs enfants, j'ai vu vraiment beaucoup de gens, des fiancés qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans leur future épouse ou futur époux. Et tout ça m'a intéressé, m'a interpellé, parce que je me disais, moi je connais des gens là-dedans, mais il y a d'autres qui sont touchés plus directement que moi. Si moi, 17 ans plus tard, je continue à y penser, comment vivent les autres? Et c'est cette question-là, comment vivent les autres? Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre.
Alors c'est une femme donc, dont le mari ne reviendra pas, elle reste seule avec son bébé, avec aussi le poids des traditions qui pèsent sur les veuves, c'est un des axes du roman, le veuvage, ce qu'il implique, les viras qui pointent à l'horizon, la polygamie en prime. Il y a tout ça dans ce livre. Fatou Diom, une fois de plus, c'est une femme qui se retrouve à attendre dans votre roman, c'est pas la première fois?
Oui, mais elle refuse d'attendre, elle décide d'agir. Au début, elle est dans l'attente, elle ne sait pas, elle n'a jamais pensé à ce veuvage, elle est jeune, elle a moins de 30 ans. Elle est dans une histoire toute fraîche, toute belle. Elle a son premier bébé qui n'a que 5 mois au moment du naufrage. Donc c'est une belle histoire d'amour qui démarre avec une famille qui se constitue tout doucement. Il y a plein de rêves. Et là, tout se casse au milieu comme ça du parcours, même pas au milieu du parcours, au début du parcours. Et elle ne sait pas, elle est immobilisée au départ. Elle est vraiment tétanisée, elle ne sait pas quoi faire. Elle est mutique au début. Et puis petit à petit, à force de réfléchir et de se révolter par rapport à tout ce qui l'entoure, par rapport au discours des métamorphosés qui prêchent à longueur de journée, par rapport au projet formulé pour son propre destin, à un moment donné, il y a une révolte intérieure comme ça.
Alors ça va se traduire comment ça? Elle va se réfugier dans la nuit, on peut dire ça.
Oui, elle deviendra une sorcière de la plume. Elle va décider d'écrire nuitamment tout ce qu'elle a envie de dire à son amoureux. Mais aussi, elle va invoquer les esprits des ancêtres, les mains des ancêtres. Elle va solliciter Sangomar pour retrouver son aimé. Donc Kumba convoque son mari par la plume toutes les nuits. Elle peut rentrer en contact avec les esprits du Djola. Elle les imagine toujours vivants et réunis sur l'île sacrée de Sangomar, qui est un ancien sanctuaire animiste.
C'est bien de pouvoir discuter avec les disparus. Hein,
ah mais vous y arriverez, même si vous essayez, vous y arriverez. Donc les esprits sont plus proches que nous l'imaginons. Ils sont logés dans notre mémoire, mais dans notre cœur, toutes les personnes aimées. C'est même pas moi qui le dis, c'est Birago Diop dans son poème Souffle. Les morts ne sont pas morts, donc ils sont dans le feu qui s'éteint, ils sont dans l'enfant qui vagit. Et cette île est en face de mon village natal. Donc Sangomar, c'est un lieu de culte animiste. Il y a d'énormes baobabs qui sont là-bas, ce qui renforce le mystère. Et on suppose que les djinns sont là-bas et que les ancêtres peuvent intercéder et nous mettre en contact avec nos morts. Et Kumba y croit parce qu'elle essaie de renouer le contact avec sa culture traditionnelle animiste pour retrouver son chéri.
Voilà, puis il y a des choses qu'elle rejette aussi dans la culture. Alors je disais, enfin, je ne sais pas si c'est elle, mais en tout cas, vous dites des choses. Hein, par exemple, à propos de la polygamie, au détour d'une page, vous écrivez « Cette polygamie, elle perdure parce que les mères possessives préfèrent voir leur fils en chef de harem plutôt qu'heureux avec une seule princesse régnant dans son cœur loin des griffes de maman. »
Exactement. Souvent, quand un homme, vous pouvez trouver plein d'âmes africaines qui vont vous confirmer ce que je vous dis. Parfois, quand un homme est fou amoureux de sa femme, tout se passe bien, et bien les mamans sont là pour dire, mais elle te mène par le bout du nez. Ou alors, si la dame est un petit peu indocile, et bien on va dire, mais prends une deuxième épouse, ça la calmera.
Enfin, je veux dire, diviser pour mieux régner. Hein,
exactement.
On va dire
ça. Et bien une femme, c'est pas un médicament contre une autre femme, et c'est pas une collection de canapés ni de voitures. Donc, il est temps que les gens comprennent que le cœur d'un homme est bien comme une chaise. Quand c'est occupé, ce n'est plus à réoccuper. Donc, un homme aime une femme aime un homme. Ce serait bien que les belles-mères restent vraiment belles à leur place.
À leur place. Outre cette jeune veuve, Fatou Diom, il y a aussi dans ce livre un couple venu de Marseille qui a perdu sa fille et son gendre dans le naufrage. Un jeune couple mixte, englouti par l'océan. Histoire vraie ou pas histoire vraie, là aussi?
Vous savez, dans les romans, tout est vrai. C'est le roman. Donc, vous avez accepté le contrat. Vous avez signé.
Non, mais comme vous êtes partie d'un vrai naufrage, moi, je me pose des questions. Hein.
Et oui, parce qu'il y a des Européens qui étaient dans ce Djola. Il y avait beaucoup de nationalités dans ce bateau. Et donc, j'imagine ses parents en Europe, privés de leurs enfants, comment ils imaginent le Sénégal? Peut-être qu'ils imaginent mon pays d'origine comme un cimetière lointain. C'est intolérable pour moi. Mais comme c'est intolérable pour moi, je vais essayer moi aussi de les comprendre. Vous savez, quand on a perdu son mari, on s'appelle veuve. On perd sa femme, on est veuve. Donc on perd ses parents, on est orphelin. Mais il n'y a pas un nom dans le lexique de cette langue française.
Quand on perd son enfant.
Voilà, pour donner le titre, le statut exact de parents privés de leur enfant et surtout de leur unique enfant. Et moi, j'ai pensé à Pauline, comment, qui est partie, qui est restée là-bas avec son amoureux sénégalais. J'ai pensé à ses parents, donc Djilali et Linda. Et c'est Marseille, c'est le melting pot, c'est le mélange d'Algérie, de Sénégal, de France.
Voilà, et ça vous permet de parler de ce sujet qui vous tient à cœur, Fatou Diom, ce que vous appelez les amours bicolores,
oui.
Avec leurs joies et leurs difficultés. Et là, je vous cite, « Pour qu'un jour, lassé de séparer les torchons des serviettes, Madame Bonnemanière ouvrira une école diplomatique pour les familles et alliés des couples mixtes. »
Oui. Et sinon, j'espère que l'université de Liège et de Gand vont créer un module qu'ils vont appeler pour la roucouladologie internationale.
Exactement.
Parce que c'est ce qui se passe. Nous roucoulons. Alors, si nous sommes capables de nous rapprocher amoureusement au-delà des frontières, il serait vraiment temps que les gens comprennent qu'un couple mixte, ça n'a rien d'exotique. C'est une normalité de notre époque. Donc, il serait bien que les familles arrêtent de torturer leurs enfants. Et Djilali et Linda, leur couple dure parce que...
Ça, c'est les parents. Hein.
Les parents. Parce que c'est un couple mixte et leur différence, eh bien, ça donne du piment à leur vie parce qu'ils doivent s'adapter, se redécouvrir tout le temps. Les gens qui sont dans le conformisme, vous savez, quand ils sont fiancés, leur couple, il est déjà vieux de 2000 ans. Ça n'a rien de nouveau, c'est d'une banalité. Alors que les gens différents, eh bien, ils s'apportent quelque chose, une nouveauté, de la découverte, puis quelque chose de plus, je ne sais pas, de plus piquant.
Voilà, on va parler dans un instant, Fatou Diom, de votre parcours à vous. On ne sera pas très loin de ce que vous venez de nous raconter là. Votre parcours entre l'Afrique et la France. Le temps d'écouter Rachid Taha. Hey, ouais.
Africain, africain du nord au sud, et je suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain, un albinos afro. J'aime l'Afrique. Africain, fantasmagorique. Africain, de New York au Congo. Africain, Dieu a la même peau. Je suis africain du Fuji au Kilimanjaro.
Africain,
Sankara,
Africain,
Bob Marley,
Africain.
Rachita, Je suis africain, une chanson extraite de cet album posthume, choix musical signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
Avec Fatou Diom, c'était une chanson pour vous, ça, hein, Fatou Diom.
Et oui, et puis vous aussi, vous êtes africaine.
Ah bon?
Ah oui.
Croyez?
Ah bah oui.
Parce
que toutes les personnes qui aiment l'Afrique peuvent être africaines,
ah bah écoutez, venez. Allez, d'accord, ça marche. Alors, on va revenir sur votre parcours, Fatou Diom, parce qu'il est quand même exceptionnel, ce parcours. Vous êtes né en 68 sur l'île de Niodior, c'est
donc
ça?
J'ai 20 ans, c'est ça.
Ah, voilà, mmh. Au Sénégal. Vous le dites sans détour, vous êtes un accident de parcours. Vous êtes,
un accident de bisous.
Vous êtes le fruit d'amour adolescente, c'est ça, de deux jeunes gens qui après ont fait leur vie chacun de leur côté.
Oui, donc je suis le fruit de deux jeunes inconscients, donc poètes. Et ils étaient jeunes et beaux, et puis ils n'ont trahi personne, et puis ils se sont aimés, ils étaient fiancés ni mariés à personne. Donc ils étaient libres. Je suis le fruit d'un amour de gens qui ont osé aimer. Voilà.
Et donc, du coup,
donc j'étais considérée comme un péché pour les tartuffes.
C'était compliqué quand même.
Les faux dévots.
C'est votre grand-mère qui vous a élevé, votre grand-mère?
Mon grand-père et ma grand-mère.
Votre grand-mère vous a même allaité?
Oui.
Elle a été comme votre mère, c'est ça?
C'est même elle qui a fait la sage-femme. Elle m'a accueillie au monde dans tous les sens du terme.
cette naissance, ce rejet aussi d'une partie de la population, c'est quelque chose, oui, de déterminant dans votre parcours, Fatou Diom?
Oui, mais pas seulement le rejet, mais ce que mon grand-père m'a appris à faire de ce rejet. Parce que toute seule, j'aurais pas pu.
Mais mon grand-père, c'est celui qui naviguait.
Maternel, voilà. Donc mon grand-père maternel, donc le mari de cette grand-mère qui m'a allaitée, portée sur le dos, coucounée, celle qui se levait la nuit quand j'avais la fièvre avec son chéri, parce que ces deux-là, c'était un vrai couple d'amour. Et donc ils étaient très complices. Et quand l'un m'enseignait quelque chose ou quand je désespérais pour une chose, l'autre appelait l'autre moitié au secours. Donc j'étais très bien entourée. Et mon grand-père, c'était un homme indépendant. Et puis donc un solide, un marin, comme je le dis tout le temps, c'est pas anodin. Quand on veut connaître le tempérament des gens, il faut connaître leur environnement. Cet homme-là, il est né, il a vécu dans l'océan et par l'océan et pour l'océan. Et il m'a toujours appris à chercher mon autonomie, mon indépendance. C'est lui qui me disait, le cap promet toujours plus que le quai. Et donc, quand quelqu'un te rejette, la personne est obligée de délimiter son territoire. Si c'est un oncle ou une tante qui ne veut pas de moi, sa maison a des limites. Et mon grand-père me dit, ça veut dire tout le reste autour, eh bien, ça t'appartient, c'est le monde.
Alors, il y a eu cet amour de ses grands-parents, oui, et puis il y a eu aussi l'école.
Oui.
Fatou Diom, ça c'est quelque chose de très important. Vous y êtes allé en cachette
au début.
mais n'empêche que l'école, ça a été fondateur.
Oui, j'ai beaucoup aimé, mais c'est que l'école, c'est tout banal, hein, c'est pas si extraordinaire, c'est juste que l'école était devant le jardin potager de ma grand-mère. Et comme je l'accompagnais là-bas, et mes copines avec lesquelles je jouais tout le temps, elles allaient à l'école à côté. Donc après, je chantais « Ah, la claire fontaine, mon allant promener », vous voyez. Et je savais le chanter sans comprendre ce que je répétais. Et je voulais être là-bas. Je pense que les enfants veulent seulement être comme tout le monde. Et je voulais être comme mes copines. Je me cachais pour y aller. L'instituteur me renvoyait et je revenais. Et puis finalement, il a réussi à convaincre ma grand-mère de lui donner mes papiers pour m'inscrire officiellement, donc l'année suivante.
Voilà,
j'ai
et vous
été
êtes
inscrite.
Et vous êtes allée à l'école et vous avez évidemment appris à écrire et vous avez commencé à écrire très jeune.
Oui, à 13 ans.
À l'âge de 13 ans. Oui. Un petit peu plus tard, il y a eu la rencontre avec un coopérant français. Il faut en parler parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein, c'est comme ça que ça s'est fait.
Oui, trop d'honneur, il est parti.
Tombée amoureuse. et puis finalement, vous vous êtes mariée, vous êtes arrivée à Strasbourg. Le monsieur est de Strasbourg?
Oui. Mais comment on peut dire? Pourquoi on parle encore de lui 20 ans après qu'il s'est marié?
On explique juste pourquoi vous avez atterri ici.
Alors, je ne me suis pas mariée avec un Français, je m'étais mariée avec le plus beau des Français, d'abord. Ça veut dire quelque chose. Oui, je suis pas rancunière.
Non, vous étiez très amoureuse, on va dire ça comme ça.
Absolument, sans aucun doute. Et puis on arrive, et puis sa famille voulait Blanche-Neige. Ce n'est pas moi. Donc c'était une famille qui n'est pas du tout aussi ouverte que j'aurais voulu, comme je l'espérais.
Il y a eu un vrai rejet?
Ah oui, mais ça, les négrions, j'en veux pas dans ma famille. Ça, je l'entendais quand même, quoi. Donc chacun, il est mieux chez soi. Alors, et puis elle va exploiter mon fils. Eh bien non, ils étaient encore plus pauvres que ma famille. Il n'y avait rien à exploiter, à part son cœur en or magnifique. Et ses beaux yeux, et son sourire incomparable. Et vous voyez, je ne suis pas rancunière. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Merci Brel.
Voilà, donc finalement, vous allez vous retrouver seule,
oui,
à Strasbourg,
Fatoudiom. Après 2 ans de mariage.
Vous allez devoir travailler pour gagner votre vie, pour,
oui,
payer votre loyer,
mm-hmm,
tout en continuant les études.
Les études, oui.
Les études de lettres et de
les
philosophie,
études, oui,
c'est ça?
Oui, à la fac de Strasbourg. Et donc, je faisais femme de ménage, une des meilleures de France. Quand j'ai nettoie, ça brille. Mais il fallait tenir. Et donc, je faisais babysitting, ménage, repassage, garder des personnes âgées malades, les enfants. Donc, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire de manière légale et propre et digne. Donc, à la sueur de mon front, ça comptait pour moi pour continuer les études. Je signale juste qu'il y avait du réconfort à aller dans les bibliothèques. Et ça m'a beaucoup aidée.
Vous dites que vous avez fait des ménages en raison notamment de la couleur de votre peau.
Mais
il y a,
oui,
certaines choses que vous n'avez pas pu faire à cause de ça.
Ah mais honnêtement, j'ai envoyé énormément de CV, on m'engageait jamais. Donc alors vous voulez être pionne, on prenait les copines, pas moi. Pourtant, si vous avez le CV qu'il faut et puis vous demandez et puis on vous refuse tout le temps, ou des entretiens d'embauche où on vous dit pourquoi vous n'allez pas travailler chez vous. Sauf qu'au bout d'un moment, chez moi c'était quand même la France. Je signale juste que quand on se marie, qu'on rejoint son mari, on n'est pas immigré. Parce que quand une Française se marie avec un Berlinois ou un Londonien, eh bien on rejoint tout bêtement le domicile conjugal. C'est ce que j'ai fait. Donc je ne suis pas une immigrée. Je suis partie faire ma vie très lucidement avec un homme. Ça aurait pu être en Guinée ou à Bamako. Hein.
Vous avez donc connu le racisme à ce moment-là,
Fatoudiom. Oui.
Aujourd'hui que vous êtes écrivaine reconnue, c'est terminé ça?
Ben non.
Ou ça existe toujours?
Non, les abrutis qui ont des problèmes avec la couleur, il y en aura toujours. Mais il faut juste savoir que ce pays est en grande majorité peuplé de gens intelligents et raisonnables et accueillants. Et c'est pour ça qu'on peut y vivre. Donc moi, quand je rencontre une réaction hostile ou raciste, je me souviens tout simplement que j'ai des tas d'amis formidables et qui sont aussi français que l'âne gris qui me donne des coups de patte.
Les gens qui vous renvoient à votre couleur de peau, c'est qui, Fatoudiom? C'est monsieur, madame, tout le monde dans la rue? C'est quoi? C'est les douaniers, je crois. Vous avez eu un souci un jour,
oui, vous ratez
à l'aéroport
l'avion,
avec ça.
Voilà. Et c'est un problème qui s'est aggravé un peu partout en Europe, vous savez. Donc on va traverser tout un hall, on n'arrête personne et puis on vient directement vers vous, comme si sur mon visage, il y avait un clignotant. Donc c'est des choses qui maintenant me font sourire. Parce que
la parole s'est libérée d'une certaine façon ces,
oui,
dernières,
oui,
années.
Oui.
Il y a un souci avec ça.
Ah mais tout à fait, les gens parlaient de trucs décomplexés, mais vous voyez quand l'être humain est décomplexé, il devient débridé. Donc ça, les gens se permettent de dire des horreurs en trouvant cela normal parce qu'ils pensent qu'ils sont chez eux. Et ils sont chez eux effectivement, mais il faut juste que je leur rappelle qu'être français, ce n'est pas une couleur. C'est une adhésion à cette constitution nationale et aux valeurs de la République française. C'est ce que j'ai fait. Et donc, quand Marianne vous adopte, eh bien, il vous donne la même dignité que tout le monde. Et donc, je marche tête haute ici parmi mes frères et sœurs.
Voilà, Marianne qui avait porté plainte, ça, on va pas y revenir. C'était en 2017, c'était,
voilà,
ce livre publié à l'époque de la présidentielle. Vous écrivez toujours la nuit, Fatoudiom?
Oui.
C'est toujours votre moment favori?
J'écris la nuit, mais je le disais dans le ventre de l'Atlantique, la nuit, je mijote des rêves trop durs à cuire. Donc, comme ma cuisine n'est toujours pas terminée, je continue à cuisiner la nuit. J'écris la nuit et je peux rédiger une conférence dans la journée, c'est vrai. Mais ça, c'est un travail plus carré, plus scientifique. Donc, tout ce qui est beaucoup plus imagination, plus affectif, beaucoup plus, mais à l'intérieur, mais ça demande une concentration absolue. Et puis, il y a cette magie de la nuit. Il y a quelque chose pour moi de très honnête aussi avec la nuit. On ne peut pas tricher, on est face à soi-même.
Et est-ce que c'est vrai que vous lisez à haute voix ce que vous écrivez?
Ah, je ne lis pas, je récite.
Vous faites de la radio, en fait.
Je récite. Je lis les textes des autres, mais pour moi, il faut réciter pour la musique, la sonorité. Donc, un mot peut être parfaitement juste, avoir une sonorité atroce. Dans ce cas, il faut changer.
Voilà.
Enfin, pour moi, je change.
Voilà, donc j'imagine que vous avez relu entièrement à haute voix L'éveilleur de Sangomar, vous l'avez lu au fur et à mesure, votre dernier roman chez Albin Michel. Il y a une petite précision pour cette émission qui est un format un petit peu particulier. Ce soir, il n'y a pas de bonnes ondes. D'habitude, on a toujours cette rubrique dans cette émission avec Sandrine Houdin. Pas de bonnes ondes, encore que on va vous emmener au bistrot à présent, Fatoudiom. Pour cela, direction Chambouly, c'est en Corrèze, dans le canton de Saran, le fief des Chirac. On y revient. Là-bas, on boit à la mémoire de l'ancien président, c'est un reportage de Benjamin Illy.
Chambouly, 1200 habitants, le café de la place, avec la petite ambiance musicale qui va bien, Dirty Dancing. Bonjour.
Jérôme,
c'est le patron. Jérôme, où Jérôme? Vous avez vendu beaucoup de Corona là depuis l'annonce de la mort de Jacques Chirac?
Alors malheureusement j'en ai pas, mais c'est prévu.
Quoi?
On est justement pour fêter l'événement et la journée nationale le lundi. Il y a une caisse qui va rentrer de Corona et un repas tête de veau de prévu justement pour.
C'est pas vrai.
Exactement.
Bonjour madame, votre prénom?
Valérie, 50 ans.
C'est pour parler de Jacques Chirac.
Oula, bah ce sujet. C'était un homme merveilleux, extraordinaire, fantastique. En fait, tous les superlatifs qui puissent exister.
Vous l'avez déjà vu?
Oui.
Bon, comme tout le monde. Tout le monde a déjà vu Jacques Chirac en Corrèze.
Oui, non, mais moi je l'ai vu plein de fois. Moi, il m'appelait mon chéri. Je suis traumatisée depuis hier. Hein. Même en 95, je me suis faite opérer au moment des élections présidentielles et j'ai signé ma procuration sur le billard.
Pour voter Chirac?
Pour voter Chirac.
Un dernier mot, si vous entendez, vous diriez quoi?
Au revoir, monsieur, et merci.
Et voilà pour ce reportage de Benjamin Illy. Donc il y aura de la Corona pour l'ancien président. Pas de la bière d'Alsace, hein, Fatou Diome, c'est comme
non, au Sénégal, il a demandé une gazelle alors qu'il y avait tous les bons vins devant lui.
Ah là 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 là. Un grand merci, Fatou Diome, d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle donc le titre de votre dernier roman, Les Veilleurs de Sangomar, chez Albin Michel. Quelques rendez-vous peut-être en librairie pour vous rencontrer dans...
On fera toutes les régions de France et surtout pour déguster la bonne cuisine française.
Vous allez faire des séances de dédicaces un petit peu partout, c'est ça? Vous allez faire le tour
à
des...
Dialogue, j'irai à Nantes, j'irai à Rennes. Le 3 octobre, c'est Strasbourg-Kléber.
Voilà, c'est noté. Un bon retour à Strasbourg ce soir, Fatou Diome.
Et il faudra boire demain, merci.
Oui, c'est pour ça qu'on a demandé tout à l'heure à Elodie Calac. Elle était un petit peu étonnée, c'était ça la raison. Un très grand merci à vous d'être venu. Dans quelques instants, le journal de Sébastien Paour. Ensuite, le téléphone sonne qui sera consacré ce soir à la scolarisation des enfants handicapés. Ont-ils tous trouvé une solution? Un mois après la rentrée, on en parlera avec nos invités au 01 45 24 7000. Et puis, on rendra hommage une fois de plus à Jacques Chirac qui avait fait du handicap une grande cause de son second mandat.